Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. La silhouette adolescente, les cheveux gris en pétard, la démarche nonchalante, mais le sourire complice, il voit tout. Il sent tout, Eric Elmosnino, comme s'il avait un peu plus de capteurs que nous. Bah, c'est sûr, ça aide à décrocher un Molière et un César, ce qu'il a fait. Eric Elmosnino, donc, est chaque soir aux côtés de Vanessa Paradis sur la scène du théâtre Édouard VII à Paris pour la pièce de Samuel Benchetri, Maman. Figurez-vous que j'ai mille questions à lui poser. Bonjour.
Bonjour.
Ça commence fort. Bon, Eric Elmosnino, vous qui n'aimez rien tant que désobéir et ne pas vous plier à la répétition des choses, comme on le fait dans la plupart des métiers, comment chaque soir, avant 21h, vous reprogrammez-vous pour jouer les mêmes situations, les mêmes mots, avec la même fraîcheur, la même vérité? Quels sont les ressorts pour 90 soirs de suite, réussir à donner au spectateur le sentiment que chaque soir est l'unique fois où les choses se déroulent?
Eh bien, on n'y arrive pas tout le temps. Mais la chance qu'on a, c'est qu'eux, ils sont là seulement un soir. Donc, ils peuvent croire que, voilà, que c'est unique ce qui se passe.
Alors, cette pièce Maman, elle a été écrite pour Vanessa Paradis, par l'homme qui partage sa vie. Comment êtes-vous entré dans cette aventure qui fait de vous sur scène, donc le mari de Vanessa, un mari vraiment prêt à tout pour que sa femme oublie le chagrin qui la brûle depuis 25 ans? Vous êtes arrivé comment sur cette aventure?
Eh bien, par le biais de Samuel, quoi. De Samuel qui met la pièce en scène, qui l'a écrite effectivement pour faire un cadeau, je crois, à Vanessa, dont elle s'est emparée avec vraiment tout son talent, et c'est magnifique. Et puis, et nous, on se tournait un peu autour depuis quelques années. On avait déjà eu le projet de faire une pièce qui s'est pas faite, et puis là, il a repensé à moi pour ce rôle de ce petit Bernard, là, comptable.
Petit Bernard dont l'amour est immense. Hein.
Ah, immense, ouais. Ah oui, oui. Ah oui, oui, moi, je l'ai pas vu tout de suite, ça, c'est marrant. C'est en le construisant petit à petit. Et bref, et j'adore faire ça tous les soirs, être ce petit mari aimant et bouleversé, et bouleversant, je crois, à l'arrivée d'amour pour sa femme qui est en quête d'un truc fou, quoi.
Vanessa, vous l'aviez déjà rencontrée, ouais. Vous l'aviez repérée? Non, jamais.
Non, jamais. Non, on s'est jamais rencontrés. Non, absolument pas. Non. Moi, je la connaissais bien évidemment, mais non, jamais rencontrée. On s'est rencontrés la première fois, quand on a lu la pièce pour la première fois.
Alors, on sait tous bien sûr que Vanessa Paradis imprime la pellicule avec une grâce singulière. Le théâtre, c'était le seul défi qui lui restait à relever. Vous, Eric Elmosnino, le théâtre, c'est votre maison. Mmh. Alors, c'est particulier de jouer avec, puisque ce sont ses premiers pas au théâtre, je peux me permettre de dire, avec une débutante aussi célèbre, une débutante qui, depuis 30 ans, est l'une des plus grandes stars en France.
C'est pas compliqué du tout, non. C'est la chose la plus simple du monde. Quand les gens ont du talent.
Parce qu'elle joue effectivement extrêmement bien. Voilà. Mais on va dire qu'en face de vous, en même temps, vous avez une débutante qui est une icône. J'en dis débutante parce que ce sont ses premiers pas sur les planches.
Bah oui, mais l'icône, en fait, l'icône, c'est une icône, je ne sais pas, comment t'es avec une icône. Tu lui dis bonjour, tu répètes avec elle, tu fumes une clope avec elle, tu bois un coup, et puis voilà, il n'y a pas d'icône, quoi. D'un coup, il y a quelqu'un. Moi, je m'en fous, je ne joue pas avec une icône. Et elle est pas une icône, elle est qui elle est Vanessa, et elle est là avec son talent, sa grâce, et c'est impressionnant, hein, ce qu'elle fait dans le spectacle, ouais, vraiment, ouais. Soir après soir. Non, franchement, hein, moi, faut dire que pourtant, comme vous dites, j'en ai fait quelques-uns, mais je la vois prendre ça en charge, et franchement, t'es un peu scotché tous les soirs, quoi.
Alors, il est temps de planter le décor et de nous décrire justement les personnages quand tout démarre un soir de Noël, n'est-ce pas? Vanessa Paradis, donc, ferme la boutique de vêtements pour femmes enceintes, ouais, qu'elle tient. Ouais. Elle attend un taxi, ouais, déboule un jeune homme, ouais, qui va la prendre parce qu'elle n'est pas du tout.
Voilà.
Et elle?
Eh ben, elle va le prendre pour ce qui n'est pas du tout, mais en même temps, on va savoir. Mais c'est l'histoire d'un couple qui a eu un malheur, qui a vécu un malheur depuis 25 ans, quoi. Ils sont en souffrance, et elle croise un jeune homme un jour, et eh bien, elle se dit que ça pourrait être cet enfant, voilà, en fait. Ça pourrait être cet enfant qu'ils n'ont pas eu. Et elle arrive à convaincre son petit Bernard de Marie qu'on pourrait, on pourrait peut-être vivre avec cet enfant et aller le chercher. Et lui, il la suit dans cette folie-là, quoi.
Alors effectivement, vous parlez de folie. Maman, c'est une pièce singulière qui navigue entre l'émotion, le rire, les larmes. Et vous dites de cette pièce qu'elle n'utilise pas les codes et les recettes du théâtre privé.
Ouais.
Pas du tout, expliquez-nous.
C'est peut-être une idée un peu idiote que j'ai du théâtre privé. C'est peut-être un peu débile, effectivement, le côté et le meilleur ami de la femme qui est l'amant de la mère du voisin, tout ça, des conneries.
Vous voulez dire qu'il y a des recettes convenues, généralement, dans le théâtre privé
pour attraper
le spectateur.
Ou des codes, peut-être quelques conventions, ce qui fait que les gens ne se sentent pas trop perdus et se sentent en terrain de connaissance et un peu rassurés en venant dans ces théâtres-là. Là, ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de décalé, d'inattendu. Je crois que les gens, quand ils s'assoient et que ça démarre, ils ne savent pas du tout où ça va aller.
Ouais.
Et ils sont prêts à s'embarquer. Et moi, ça m'intéresse plus quand je lis une pièce de ne pas savoir où ça va aller que d'avoir compris au bout de 4 pages, quoi. Je me dis, sinon, c'est bon. Après, soit c'est génialement écrit, et pourquoi pas, mais sinon, ça m'embarquait dans quelque chose que moi, j'avais jamais lu et que j'avais jamais vu, donc ça m'intéressait, quoi.
Alors, l'écriture de Samuel Benchetri, par son goût de l'incongru, de l'absurde, de l'extravagant, parfois, elle m'évoque celle de Sébastien Théry, dont vous avez joué des pièces, oui.
Oui, oui.
Alors, c'est en fait un nouveau théâtre contemporain qui voit le jour.
Je ne sais pas.
Puisque justement, vous dites que vous, qui êtes si habitué à jouer sur scène, vous dites que c'est très neuf, ce texte, et son inspiration, ce qu'il porte.
Ouais, moi je dirais pas que ça a à voir avec... c'est pas pour vous embêter, hein, Isabelle, mais je dirais pas que ça a à voir avec l'écriture de Sébastien.
Je ne veux que ce que vous ressentez véritablement.
Non, je dirais que ça... Il y a un côté plus Bertrand Blier pour moi, voilà, ça
c'est
se rapproche. Ah ouais, ouais, ouais. Il met dans la bouche de ses personnages, et un qui est censé être un petit comptable, l'autre un voyou, mais il est fait parler comme des poètes, quoi. Il y a une forme de poésie. Alors moi j'adore ça, ce décalage-là, voilà. C'est pas naturaliste, quoi. C'est pas la vérité, la réalité. On s'en fout. On n'est pas dans la rue, en vrai, à 2h du matin.
Voilà.
Il y a quelque chose qui est beau, quoi. Je ne sais pas, qui fait rêver,
qui transcende la réalité.
Ailleurs, exactement.
Ouais.
Qui transforme. Et ça, je trouve ça super beau, voilà.
Vous avez en fait tellement d'amour pour votre femme, donc interprétée par Vanessa Paradis dans Maman, que vous vous laissez entraîner dans la plus folle de ses demandes, n'est-ce pas ? Et comme pour l'excuser, à un moment, vous dites... J'ai trouvé si belle cette phrase. Vous dites, en fait, c'est la femme qui a le plus aimé l'enfant qu'elle n'a pas eu.
Mmh.
Ça peut faire peur, l'amour, quand il y en a trop.
Ah oui, sûrement. Ah oui, ça peut faire peur. Ah oui, oui, moi, je peux avoir envie de m'enfuir. Hein. Ça m'est arrivé.
C'est vrai.
Non, on va pas tout de suite basculer sur ma vie, mais.
Mais si.
Non, mais. Ben oui, évidemment, c'est incroyable. Quelqu'un qui aime à ce point-là, qui aime. Tellement que tu dis « Oh là là, non, je vais pas y aller, ça fait trop peur. » Non mais c'est vrai. C'est vrai, je crois.
Alors, dans Maman, il y a ce monologue poignant, assez long, de Vanessa Paradis, qui est traversée par des larmes. Elle fait vraiment une performance. Comment, sur scène, devenez-vous, à ce moment-là, spectateur de ce qu'elle fait ? Parce que vous l'écoutez comme le public l'écoute. On retient tous son souffle.
Ouais.
Sauf que là, vous êtes sur scène pendant ce long monologue.
Oui. On est très proche d'elle. C'est surtout Félix, en fait, qui l'a dans les yeux. Pour lui, je vois qu'il est bouleversé tous les soirs. C'est impossible de rester extérieur à ça, quoi. C'est impossible. Et moi, je ne suis pas comme un spectateur, ce n'est pas vrai. J'essaye de... Mais c'est absurde.
Je
parce
vous
qu'en
provoque
même temps...
hein, quand
non,
je dis ça.
Oui, mais provoquer, ça marche. mais je suis dans un... J'essaye d'être à l'endroit de cet homme qui n'a pas les mots pour dire ce qu'elle dit, mais qui est complètement en empathie et avec elle. Donc voilà, tout ça ne se voit pas et ne se sent pas. Mais moi, c'est ce qui se passe à travers moi à ce moment-là. Voilà, c'est mon endroit secret.
On retrouve tout de suite Éric Elmosny.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Éric Elmosnino joue une sacrée partition aux côtés de Vanessa Paradis dans la pièce « Maman » au Théâtre Édouard VII. Il est mon invité. Éric Elmosnino, il paraît que vous avez passé votre enfance et votre adolescence à attendre, avec une conscience aiguë du fait que la vraie vie n'avait pas encore commencé. En fait, c'était long, c'était lent.
Ah oui, interminable. Bah oui, oui. Oui, oui. Alors, le souvenir s'estompe un petit peu, hein, de plus en plus, évidemment.
Certes.
Ça, certes, dit-elle. Ça s'éloigne un peu. Mais bon, ça, il reste quand même oui, des parfums de ce temps-là. D'autant que, bon, la vie étant ce qu'elle est, des fois, on est reconfronté à des jeunes gens de 16 ans, 17 ans, 15 ans, et on voit comment ils vivent. Les obligations qu'ils ont, c'était...
On voudrait pas repasser par là.
Oh my God, non. Oh punaise, les pauvres, qu'est-ce que je souffre avec eux. Peut-être plus qu'eux d'ailleurs. Quand je les vois obligés de se coucher à telle heure, pas pouvoir faire ci, pas pouvoir faire ça, être obligé de faire ci...
Parce qu'ils ignorent en fait que nous, on était, cette génération-là, si libre en fait,
ah
d'une
bon
certaine manière. Non, vous ne trouvez pas
Libre, oui. Après, je ne sais pas comment vous avez vécu vous, hein, mais peut-être que c'était un grand espace de liberté. Mais quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu n'es pas dans une grande liberté. Tu peux pas faire ce que tu veux, c'est pas vrai, quoi. Il y a des trucs, bah voilà, on te dit non, ça c'est comme ci, comme ci, comme ça. Et à un moment, tu te dis putain.
Le monde était plus ouvert.
Non, mais le monde était peut-être, je ne sais pas, le monde était peut-être mieux, moins bien, peu importe, j'en sais rien. Mais ce monde-là, moi je crois, de l'enfance ou de la, allez, préadolescence ou machin, à mon avis, rien n'a changé. Rien n'a changé. Ils sont là, dans l'attente à un moment de, bah, d'être libre, entre guillemets. C'est-à-dire au moins décider ce qu'ils veulent faire pour eux, qu'on arrête de décider pour eux, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendais.
Alors, revenons à vous. L'année de vos 16 ans, bah, soudain, il se passe quelque chose, mais pas du tout comme vous l'auriez souhaité, puisque votre père, qui était dessinateur industriel, part, quitte la maison pour ne pas revenir.
Ouais.
Donc, en fait, il disparaît de votre vie et ça crée une brèche, une béance. Donc, vous quittez l'école.
Oui, bah oui, oui. Mais peut-être que je pense pas que ça soit, en fait, en y réfléchissant, c'est pas le fait qu'il soit parti. Je pense que j'attendais juste de pouvoir m'engouffrer dans une brèche. Et comme, voilà, comme ma pauvre petite maman s'est retrouvée comme ça, un peu désemparée, bah, j'en ai profité pour dire, oh là là, vas-y, terminé, personne ne va pouvoir me rattraper par le col, quoi, en fait.
Mais alors, vous faisiez quoi de tout ce temps dont vous disposiez soudain?
Alors, ça démarrait. Donc, je faisais semblant de partir. Et donc, je m'arrêtais au café et je restais à peu près 5-6 heures à jouer au flipper. Voilà. Et après, fumer des pétards. Et après, revenir jouer au flipper et refumer des pétards.
Formidable. Ça a duré combien de temps?
2-3 ans.
Non.
C'est pas mal quand même, hein.
Non.
Ouais, bah oui.
Et puis pendant ce temps-là, votre mère tentait vainement de vous parler, par exemple, d'une école de comptabilité.
Oui. Non, mais j'ai fait après. Je m'en suis tapé un peu pendant un an ou deux, je sais plus. Oui. La compta, j'ai fait. Et puis après, bah j'ai bossé quand même. Non. Je faisais pas que jouer au flipper, mais j'ai beaucoup fait ça. Et d'ailleurs, j'étais quand même assez balèze. Heureusement, tu me diras. Mais
oui, parce qu'avec
bon.
8 heures de flipper par jour, quand
j'étais
même.
Bon. Et les pièces de 5 francs, cette partie.
Voilà, il aurait fallu que ça s'inscrive aux Jeux Olympiques.
Ouais.
Bon, en tout cas, le destin avait d'autres projets pour vous que le flipper.
Ouais.
Et pour les beaux yeux d'une fille, Riquel Mosnino, eh bien, un beau jour, vous êtes entrée au Conservatoire de théâtre de Saint-Germain-en-Laye. Et sans prendre la mesure de votre acte, vous êtes inscrit au concours d'entrée qui avait lieu 3 mois plus tard. Voilà.
Ouais,
en 3 mois, on a le temps d'oublier qu'on s'est inscrit. Et puis un beau jour, on se dit « Zut, c'est demain !»
Vous savez tout.
Racontez-la
l'histoire,
non,
c'est pas la peine.
Non, mais c'est tellement mieux quand c'est vous qui la racontez.
Donc j'ai reçu cette convocation, alors que je ne m'y attendais plus du tout, parce que j'avais zappé complètement, et où on me demandait de préparer un monologue et un poème. Poème que j'ai retrouvé finalement, à force de le chercher, un poème d'Éluard. Bon, pourquoi je suis tombé là-dessus? Et donc je m'en vais présenter ce poème et ce monologue. J'avais choisi un monologue des femmes savantes, sans me rendre compte, c'est la fameuse anecdote, que c'était une femme. Et donc je suis arrivé à ce concours, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Franchement, il devait se trouver que c'était un jour où je n'avais pas de rendez-vous au café. Parce que
pas de flipper.
C'est dingue, non?
Pas
mais franchement,
de partie de flipper
c'est
prévu.
Dingue. Je me suis retrouvé à Saint-Germain-en-Laye, comme ça, à débiter un monologue d'Armande dans Les Femmes Savantes, ou Henriette, je ne sais plus, aucune des deux. Et puis ce poème d'Éluard, et c'était, à mon avis, assez affligeant, c'était comme de l'ordre de la récitation, parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était que le théâtre. Et j'ai eu cette chance inouïe, effectivement, d'avoir...
Donc ça n'était pas du tout de l'ordre de la récitation, puisqu'on vous a retenu.
Mais je ne sais pas comment dire, je me revois, c'est marrant, je me revois physiquement, j'étais comme un chien mouillé, je me souviens, il pleuvait, j'avais une espèce de longue cheveux bouclée, une espèce de petite doudoune sans manche, j'étais trempé, on aurait dit un cocker à mon avis, qui est monté sur scène, je vous jure, c'est vrai, et j'ai commencé à dire ce texte de cette femme qui ne voulait pas se marier ou je ne sais pas quoi, et d'un coup, cette femme était morte de rire, cette prof de théâtre, et m'a dit, écoute, vraiment, je pense que tu n'as aucune idée de ce que c'est, mais je crois que tu as quelque chose à faire ici. Et merci.
Voilà. Merci. Voilà. Merci. Alors effectivement, vous aviez quelque chose à faire ici, mais bon, vous n'êtes pas resté longtemps au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Vous avez vite et aisément intégré le Conservatoire à Paris. Qui vous a poussé? C'est cette même femme,
oui,
prof?
Oui, bien sûr. Ouais,
c'est elle,
Jacqueline Jabour. Oui, c'est elle, bien sûr. Il voulait absolument que je passe le conservatoire à Paris, bien sûr. Ouais.
Alors, vous étiez un total autodidacte, Racine, Shakespeare, Molière, Brecht, Musset, Tchekhov à l'époque.
Très, très loin.
Voilà, ce n'était pas franchement vos amis. Vous avez tout embrassé d'un coup? Vous êtes jeté à corps perdu dans la lecture?
J'ai embrassé beaucoup de filles au conservatoire aussi.
D'abord?
D'abord. Ça,
d'abord,
c'était chouette.
Avant Musset, avant Brecht.
Ah, ça, c'était chouette, franchement. Ouais. Là, j'ai dit, oh là là, mais je vais rester là, moi. Franchement, c'est chouette. Et puis après, nos auteurs et tout ça, mais ça a mis du temps, hein. Même au Conservatoire de Paris, j'étais quand même très loin encore de nos amis Brecht et Racine et compagnie. Oui, j'ai mis du temps, j'étais lent et j'ai découvert peu à peu, au contact de grands metteurs en scène, la beauté, quoi, la beauté de l'écriture, la force, la puissance, Oui, j'ai découvert tout ça après.
Alors, vous dites, aux côtés de grands metteurs en scène, Eric Almosnino, ouais. Par exemple, Jean-Pierre Vincent,
oui.
Qui dirigeait la Comédie Française et le Théâtre des Amandiers à Nanterre, où il vous a fait jouer de nombreuses fois. Ouais. Il a vu loin pour vous.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui, j'ai eu souvent besoin de ça, des papas, quoi, en fait. Des gens qui ont eu l'exigence pour moi, que je n'aurais pas eu. J'étais un petit, un petit mec qui est au fond de la classe et puis qui veut pas faire grand chose et qui attend en même temps qu'on vienne l'attraper par la peau du cou, quoi, pour lui dire.
Et puis après, sur scène, il y a une jubilation.
Et puis après, il se passe quand même quelque chose au bout d'un moment. À un moment, tu finis quand même par dire bon, vas-y, quand même, ça va, ça suffit maintenant, quoi. Il faut un tout petit peu entendre et puis y aller, puis mettre un peu d'énergie dans quelque chose, quoi.
Alors, sinon, la première fierté, la première grande joie immense d'un rôle.
Qu'est-ce que c'est?
La vraie révélation.
La vraie, ça a été vraiment, pour le coup, ce Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Je n'ai jamais retrouvé ce plaisir-là. Et ce n'est même pas de l'ordre du plaisir, c'est d'une violence inouïe. C'était de l'ordre de la naissance. Bon, je pense que j'ai déjà parlé comme ça. Parce que c'est vrai, je ne peux dire que ce mot-là. Après, les rôles... Bon, les rôles, c'est un rôle où tu prends du plaisir, les partenaires, l'endroit où t'es, tout ça. Mais j'ai pas comme ça un rôle où je me dis, oh là là, ce rôle-là. Oui, peut-être mon petit Garincha, quoi. C'est vrai, mon Garincha, ça oui.
Parce Alors, ça, c'est vous qui avez initié
c'est
la
ça.
Pièce.
C'est ça, et voilà, exactement.
Donc... Oui, je connais bien mon dossier.
Au bout d'un moment, oui, bien, bravo, Isabelle, bravo.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, bravo. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, à un moment, tardivement, je me suis dit, peut-être qu'on scie, moi, je peux essayer de faire des choses, quoi. Pas de me mettre à l'écriture, parce que ça, je suis terrifié par ça, mais au moins d'initier un truc. Et là, c'est magnifique, parce qu'effectivement, j'étais au début de ça, et c'est devenu quelque chose. Et c'est un spectacle que j'ai joué deux fois dans ma vie, à 10 ans à peu près d'intervalle, je crois, peut-être un peu moins. Et que je sais qu'on a le projet avec Patrick Pinault de le refaire encore dans 5-6 ans. Et encore, parce que je pense que l'endroit parfait, ça sera, si jamais j'y arrive, de jouer ça à 70-75 ans.
Et chaque fois, on le joue différemment.
Ah, c'est sûr. J'espère. J'espère que je jouerai mieux à 70 ans qu'à 40 ans.
Ouais. Je ne dis pas mieux. Je dis différemment.
Ouais, mais différemment mieux, alors. Parce que, parce qu'il y a des choses qui seront un peu déposées. Ça me rappelle quand je devais faire Peer Gynt et que toute la dernière partie de Peer Gynt, c'est donc ce personnage qui revient après avoir fait quasiment parcouru le monde et qu'à 70 ans, je me disais, bon, je le démarrais à 18 ans, ça, j'avais un souvenir de ce que c'était. 40 ans, c'était l'âge que j'avais. 70 ans, j'avais aucune idée. Et j'avais fait lire ça, moi, j'avais la chance d'être ami avec Jean-Paul Roussillon. Je lui avais fait lire toute la dernière partie de Peer Gynt. Il avait 70 ans à ce moment-là, et puis en plus c'était un grand acteur. Et je me disais, vas-y, tu veux bien me lire ça? Il me l'a lu. Ça ne m'a pas aidé du tout, je m'en fous. En fait, ça ne m'a pas aidé, c'était juste pour l'entendre et pour passer un moment avec lui. Enfin, je ne l'ai pas du tout mieux joué après, mais ça me reste, c'est des moments comme ça qui me restent. Voilà.
On retrouve tout de suite Eric Almosnino.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Une nuit, celle de Noël. Une femme ferme sa boutique de vêtements pour femme enceinte. Elle attend un taxi. Un jeune homme l'aborde. Il la prend pour ce qu'elle n'est pas. Elle va prendre ce jeune homme pour ce qu'il est. Ainsi démarre la pièce « Maman » au théâtre Édouard VII. Pièce signée Samuel Benchetri. La femme, bien sûr, c'est Vanessa Paradis. Le jeune homme, Félix Moati. Et le mari, fou d'amour, c'est mon invité, Éric Elmosnino. Elle ré... Il a une manière de me regarder.
Je la regarde et hop, elle fourche.
Et voilà.
On ne pourrait pas jouer au théâtre ensemble.
On ne pourrait pas jouer au théâtre ensemble. Éric Elmosnino, vous aviez déjà plus de 38 ans et 25 pièces à votre actif quand vous avez décroché en 2002 le Molière de la Révélation. C'est du jamais vu. Pourquoi les gens de ce métier sont-ils si longs à la détente?
Mais j'ai toujours fait très jeune, moi.
Voilà, d'abord.
C'est vrai. En
plus. Et ensuite.
Eh ben, je ne sais pas, non, mais parce que des fois, il se trouve qu'à un moment, c'est un rôle que tu rencontres, et puis il y a une espèce de consensus autour de ça. Et c'était, dans mon souvenir, c'était quoi pour le André, Léon Séléna, c'est ça?
C'est ça.
Oh, ouais, d'accord. Eh ben, effectivement. Et ce qui m'avait rassuré, je m'étais dit, putain, c'est un peu tard pour la révélation, mais bon, pourquoi pas. Et je m'étais dit, non, mais il l'avait donné, je crois, un an ou deux ans avant à Philippe Cobert. Pour la danse du diable, Philippe Cobert.
Bien plus âgé que vous.
Ouais, voilà,
le Molière de la Révélation.
Ouais.
Non,
mais je vous jure. Et je m'étais dit,
c'est
d'accord.
L'ironie, là.
Non, mais je vous jure. Et la danse du diable, c'était un truc que je connais, enfin, que j'avais vu, moi, 10 fois depuis. Et tu dis, Cobert, Révélation. Bon, d'accord, ok. Je me suis dit, bon, ça va. Voilà, tout va bien. Moi, ça me va.
Alors, en fait, pendant 25 ans, vous êtes baladé partout en France avec les plus beaux rôles qu'offre le répertoire exigeant du théâtre subventionné. Mais jamais vous n'avez lorgné sur les pièces populaires. Théoriquement plus facile d'accès, du théâtre privé qui fait de ses comédiens des vedettes. Jamais, pendant ces 25 années-là?
Non, pas du tout. Moi, j'étais à un endroit, c'était là où on voulait de moi, donc c'était là que je restais. Et puis, il faut, c'était le côté populaire, tu vois, enfin, ouais. Moi, j'ai joué des spectacles. Franchement, il ne fallait pas avoir fait l'ENA pour voir les spectacles, quoi. Hein. Quand tu joues des pièces de Tchekhov ou des machins, c'est quand même... C'est sublime, quoi. C'est accessible à tout le monde. C'est des théâtres qui font des trucs. Moi, j'ai franchement pas fait, tu vois, à part peut-être un spectacle avec Vincent sur Karl Marx où tu disais, oui, bon, là, c'est à partir de Derrida, où là, tu dis, bon, c'est un peu chaud. Mais sinon, j'ai fait plein.
Enfin, c'est sublime, mais ça n'attire peut-être pas autant de monde
le
que Barillet et Grédy.
Non, peut-être. Non, c'est pas autant de monde. Moi, je suis pas d'accord avec vous. En fait, ça attire énormément de gens, mais ça n'est pas le même public, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le truc est un peu cloisonné. C'est comme ça. Je sais pas. Je sais pas comment faire pour voilà, il y a voilà. Donc là, après, il se trouve que moi, j'avais pas accès à ces théâtres là parce que j'avais pas de visibilité. Ils ont envie qu'on se dise, ah oui, je connais, que les gens puissent se dire, ah, je connais ce nom là oui, il a fait ça, ça sera par moi, rien du tout. Donc voilà, c'est pour
et
ça.
Et ben justement, parlons de visibilité. Éric Elmosnino, la célébrité, la vraie. Et donc l'affection du grand public, vous les avez découvertes l'année de vos 45 ans.
Oui.
Quand Johann Sfar est venu vous chercher pour incarner Gainsbourg dans Une vie héroïque. Alors soudain, pour les producteurs de cinéma, vous deveniez visible. Vous entriez enfin dans la ronde des acteurs, c'est ça?
Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est ça qui s'est passé, clairement. Oui, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que je pense aussi que, comme j'étais là quand même depuis un certain temps, comme vous avez dit, c'était à 45 piges que ça m'est arrivé, les gens me connaissaient, mais... ça passait jamais auprès des chaînes. On sait que c'est les chaînes, hein, qui donnent de l'argent pour les films. Donc,
oui.
Quand on te disait, voilà, j'aimerais bien faire ce film-là, avec qui Éric Elmosnino. Hein, Elmosnino, non, c'est quoi? Oui, au théâtre, il est très bien. Non, mais ça ne va pas le faire. Et à un moment, ils se sont dit, ah, merci, tant mieux. Oh, merci, non, comme si je leur avais fait un cadeau, n'importe quoi. Bref, ah, tant mieux, Éric, maintenant, on va pouvoir faire des trucs avec toi. C'est marrant, je sentais que ça leur faisait plaisir aussi de dire, ah, tu vois, maintenant, on va pouvoir faire des trucs. Ok, bah, moi, j'ai fait des trucs avec plaisir. Après, j'ai peut-être pas fait que les bons, hein, mais en tout cas, j'ai...
Mais vous en avez fait des bons.
J'ai bien profité.
Mais restons sur le film de Johann Sfar, parce que
oui.
C'est particulier de devenir célèbre pour un biopic. Donc,
ah bon
en incarnant quelqu'un qui a réellement existé, pas
ah
un
oui.
rôle fictif.
Oui.
Parce que j'imagine que les contraintes sont plus grandes. Je pense par exemple à Marion Cotillard incarnant Piaf.
Ouais.
Bon, même si le film de Johann Sfar était plus onirique, telle une bande dessinée ou une sorte de conte, il vous a fallu voler en fait tout ce qui constituait le personnage de Gainsbourg.
Bah, voler, c'est-à-dire, oui. T'as...
Vous emparer de...
Bah oui.
Parce qu'on est dans une fiction pure. Mais là, il y a quand même un cadre dès qu'il s'agit d'un biopic. Bah donc, oui. C'est pas le même exercice.
Non, c'est vrai. T'as le passage obligé, quoi. Voilà. T'as des figures obligées. T'es obligé un peu de lui ressembler physiquement, d'essayer de marcher comme lui, de te tenir comme lui, de t'en approcher tout au moins. Et puis d'essayer de faire croire que, bah, bon, peut-être que c'est cette personne-là qui a existé à ce moment-là. Mais au bout du compte, c'est plutôt un truc qui t'aide. Hein. C'est marrant. Hein. Plus t'as du cadre, des fois.
C'est vrai.
Et plus tu trouves de la liberté à l'intérieur de ça, c'est vrai. Ouais. Ouais,
c'est ce qui s'est passé pour le film de Johan Svarr.
C'est ce qui s'est passé. Ouais, ce qui s'est passé. Ouais. Dès que j'avais un peu mes petites prothèses là, mes petits cheveux, mon petit costume et ma clope
et les fausses oreilles.
Ouais, ça marche. je m'amusais bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me suis bien amusé avec ça. C'est comme quand tu trouves ton clown, quoi. C'est pareil. D'un coup, t'as ton personnage. C'est un masque et tu peux faire ce que tu veux avec ce personnage-là. D'un coup, c'est lui qui te donne de la vie, quoi. C'est étonnant, hein. C'est très étonnant. Hein.
Bon, alors, Gainsbourg, une vie héroïque, a été un triomphe. Vous avez reçu le César du meilleur acteur. Et alors, tout s'est emballé jusqu'aux États-Unis où des producteurs et des agents à Hollywood ont demandé à vous rencontrer.
Des producteurs, non, je crois pas.
Un agent américain voulait absolument vous rencontrer. Ouais. Et il y a eu un hic.
What happened?
Eh ben voilà.
Voilà, on a compris, je crois. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, c'était impossible. Je me souviens d'avoir même envoyé une bande de trucs d'essai pour un film là, qui se passait dans un train d'un Coréen. Là. Ce Coréen qui a finalement eu la Palme d'Or pour Parasite. Là.
Non.
Ouais, qui avait fait un film dans un truc qui se passait dans un
on
train.
On vous voulait pour un casting d'un film avec lui.
Ouais.
Mais bon, alors attendez.
Ouais, c'est horrible.
Mais c'est horrible parce que mais n'importe qui aurait été prêt à prendre un coach 2 heures par semaine pendant 6 mois pour avoir un accent impeccable.
Ben, c'est ça. Ouais.
Vous ne l'avez pas proposé?
Non.
Mais pourquoi?
J'ai renvoyé ma vidéo, je pense filmer comme ça sur le téléphone et pas eu de retour après. Le train est parti sans moi.
il dit ça en éclatant de rire.
Bah attends, si tu veux, je vais pas, c'est pas grave, tout va bien. Oh là là, mon Dieu. Tout va bien.
Alors, Eric Elmosnino, je vous ai entendu un jour analyser de manière très intéressante le jeu des acteurs américains par rapport à celui des acteurs français. En fait, pour résumer, bah, vous disiez qu'aux États-Unis, on joue au premier degré avec un investissement à 100%. En France, on garde toujours un léger recul, une distance dans le jeu par rapport à l'action.
Oui.
C'est ça ? Pour vous, c'est très sensible.
C'est ce qui me semble. Mais au fond, peut-être que, comme tout le monde, peut-être que je ne parle que de moi. Hein, peut-être que c'est toujours moi qui ai une espèce de petite distance et de regard un tout petit peu sur moi en me disant non, attends, vas-y, va pas trop loin, ça va être ridicule. Et ça, c'est peut-être mes limites aussi d'acteur. Quoi,
dans ce qu'on doit donner peur du ridicule. Dans le jeu ou pas, dans l'investissement.
Oui, je sais pas, il y a un truc.
Freiner juste avant d'être trop premier degré.
Ouais.
Quand on rit, quand on pleure, quand on supplie, quand on se met en colère.
Non, parce que ça, évidemment, je rêve de pouvoir le faire. Et je pense que des fois, certaines fois, j'arrive à le faire. Mais de plus rien maîtriser, je pense que c'est quelque chose qui, moi, me fait très peur dans la vie et dans le jeu. Donc voilà, j'ai toujours un petit œil, un petit machin, un petit Milou, là, comme dans Tintin, qui est là et qui me dit attention. C'est marrant. Et
le petit filet. Pour faire le saut d'ange.
Bah c'est mes limites d'acteur, voilà.
Bon, alors, un Molière, un César, c'est une jolie récolte qui devrait vous apaiser. Or, vous, qu'on ne peut pas soupçonner de coquetterie, hein, bah vous avouez, j'ai de plus en plus le trac, une vraie peur. L'insouciance est partie. Ça cache quoi ?
Ben, ça cache
d'avoir
rien.
De plus en plus peur.
Ben, c'est normal, je trouve que c'est même un peu sain, l'insouciance à un moment...
Oui, mais de plus en plus peur.
Ben... Ça, c'est exactement ce que me disaient les acteurs quand j'avais 25 ans, que je commençais. Je côtoyais les acteurs de 50 ans, ils me disaient « Oh là là !» Même ils avaient joué avec Chiro, avec machin, tout ça, ils avaient peur. Alors que moi, je me disais « Il est fou, lui. Peur de quoi ?» J'arrivais sur scène, Et maintenant, je me dis « Ah d'accord, ok, bon, bah, c'est moi maintenant. Oh là là !» Et oui, peur, c'est quoi ? Parce que en fait, peut-être que tu te rapproches d'une forme de conscience de ce que tu mets, toi, en jeu aussi, de toi. C'est pas naturel d'être devant 700 personnes, et de faire croire qu'il se passe quelque chose.
C'est pas une situation vraiment normale.
On est d'accord. Donc la peur, il ne faut pas exagérer, c'est pas de la peur. Mais pourquoi des fois on est envahi par cette espèce de trac, de tension? On ne sait pas pourquoi, c'est insupportable. Et des fois, on ne l'est pas. On ne l'est pas, je ne sais pas. Mais tous les soirs, avant d'y aller, oui, moi, ça me prend. Et au fond, j'ai envie de garder cette chose-là. Parce que je me dis, sinon, le jour où j'ai plus ça, bah, c'est que ça ne m'intéressera plus. Alors, pour le coup, j'irai faire autre chose.
C'est ce que disait Piaf. Bon, comédien, comédien, bah, c'est un métier d'athlète. Hein, d'ailleurs, beaucoup plus que le public ne l'imagine. Ça, vous l'avez expérimenté, par exemple, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, au Festival d'Avignon, quand vous avez joué la pièce d'Ibsen, justement, Peer Gynt, dans le vent, sous les étoiles, 4 heures de spectacle, avec une longue scène où vous étiez nu.
Ouais.
Qu'est-ce qui pousse à aller aussi loin dans la performance ?
Bah, à cette époque-là, j'avais envie de devenir un grand acteur, c'est tout, donc je faisais tout pour, en fait. Voilà.
Plus maintenant
j'avais... Ah bah non, plus maintenant, non. Non, maintenant j'ai envie de me reposer. Mais à cette époque-là, j'avais 40 ans, j'étais plein de bourre, et j'avais envie de devenir, mais je le dis clairement, historique, j'avais envie
Vous
que ce soit...
Vous aviez envie de devenir historique.
Ah ouais, j'avais envie de ça. Je me suis dit, Et donc ça, j'avais l'impression que là, du coup, c'était quelque chose de sublime à faire, et j'avais une énergie, un désir, une vitalité. Je me revois, hein, c'était dingue, quoi. Je me dis, c'est dingue quand même. C'est génial d'avoir fait ça. Et c'est ça qui m'a poussé. Moi, j'avais cette envie-là. Bien sûr, j'avais cette ambition-là. Sinon, tu restes chez toi, tu fais rien si t'as pas ça.
On se retrouve tout de suite avec Eric Elmosnino.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Chaque soir, au Théâtre Édouard VII à Paris, il est le mari aimant, mal aimé de Vanessa Paradis qui brûle d'une douleur secrète. Enfin, je dis mal aimé. Il faut aller voir la pièce. Je reçois Eric Elmosnino. Cher Eric, avec votre humour habituel, vous dites « Comme je suis arrivé tard au cinéma, on a encore un petit peu l'impression que je suis un jeune acteur. » Elle est intéressante, cette position de vieux-jeune acteur.
Vieux jeune. C'est horrible. L'autre jour, je fais une parenthèse, ça vous intéresse les anecdotes,
oui.
Je sais. Donc, Samuel Benchetrit, qui aime bien vraiment me vanner, et il sort du théâtre l'autre soir et il voit un spectateur. Et donc, le mec vient vers lui en disant oh là là, j'ai beaucoup aimé la pièce, merci, tout ça. Et Samuel dit merci, ça me fait plaisir. Et il dit vraiment, et puis je suis venu alors pour cet acteur que j'aime beaucoup. Là, et puis il monte l'affiche, il dit là, le monsieur aux cheveux gris. J'ai dit putain. J'ai dit quoi ? Il t'a pas dit ça, c'est pas possible. Le monsieur aux cheveux gris, il y a des trucs, tu peux pas imprimer ça. Moi, je peux pas imprimer ça. Dans ma tête, ça marche pas. Hein. Ça peut pas être moi, le monsieur aux cheveux gris. Bref,
alors, jeune acteur.
Oui, pardon.
On part en arrière,
c'est ça ? Vous l'enlèverez.
On va en avant. Alors, autre question. Cher Eric. Est-ce qu'après 25 ans de théâtre,
oui,
le cinéma a régénéré quelque chose dans votre jeu de comédien ?
Tiens,
cette question-là, elle vous accroche.
Peut-être, dis donc. J'ai jamais pensé ça, j'ai jamais réfléchi. Oui, le cinéma, évidemment, te demande d'aller sûrement plus à un endroit d'introspection comme ça, ou peut-être, introspection n'est pas le bon mot, mais un peu plus intérieur. Et j'avais pas l'impression de jouer non plus extrêmement comme ça au théâtre de manière artificielle, mais ça m'a peut-être effectivement appris.
Ça resserre des choses.
Je ne sais pas si ça a servi sur mon jeu au théâtre, mais en tout cas, le cinéma est tellement une machine un peu bizarre au départ qu'il faut vraiment l'apprivoiser. Alors, pour les auditeurs,
bizarre, c'est-à-dire ?
Non, mais c'est un phénomène bizarre de se retrouver aussi devant des caméras avec 10 personnes autour et d'être, alors pour le coup, dans des scènes des fois extrêmement intimes et avec une caméra comme ça qui est à 30 cm de toi. C'est un truc assez étrange et ça peut être soit paralysant, soit au contraire, d'un coup, ça s'ouvre. Mais pour moi, ça a mis un peu de temps avant de s'ouvrir, quoi, avant de me sentir calme. Alors que sur une scène, je me sens un peu chez moi, ouais, c'est vrai. Je me sens un peu calme, ouais, c'est vrai. C'est comme si je recevais à la maison, quoi. Ouais.
Bon, je reste un moment sur le cinéma. Au cinéma, vous avez participé au succès de comédies populaires qui ont fait énormément d'entrées, comme par exemple La Famille de Bélier.
Ouais.
Mais on a le sentiment que vous tenez à rester en dehors du cirque médiatique.
Oui, et en même temps, on me harcèle pas non plus. Hein. Je reçois pas des tonnes de coups de fil ou d'invites pour monter des marches ou je sais pas quoi. Donc,
peut-être parce qu'on se dit que Eric Elmosnino répondra pas favorablement.
Peut-être, mais moi j'aime bien ne pas aller là où on m'invite. Mais j'aime bien qu'on m'invite quand même. Donc voilà, je passe le message quand même. N'hésitez pas à m'inviter.
Vous avez entendu, n'est-ce
voilà.
pas ?
Voilà, ça me plaît, ça me plaît.
Ça lui plaît, voilà, Eric Elmosnino. Bon, est-ce qu'il est vrai que aujourd'hui, contrairement aux années 70 et 80, les spectateurs ne viennent plus dans les salles pour les acteurs. En fait, ils viennent voir une production, une histoire. Aujourd'hui, la star, c'est le film.
Oui, ou alors on se déplace pour les acteurs, mais ça suffit pas. Il faut que l'acteur soit au service d'une histoire et d'un film qui soit réussi. Et je trouve ça plutôt bon signe, moi. Je trouve ça plutôt chouette que voilà quoi. Ça donne aussi des fois. À des films la possibilité de marcher sans qu'il y ait un nom ou je sais pas quoi.
Pléthore de stars.
Exactement, ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Alors, en revanche, effectivement, au théâtre, ça c'est fou. Vous jouez par exemple en ce moment avec Vanessa Paradis au théâtre Édouard VII et c'est vrai que l'engouement, l'envie de voir Vanessa Paradis pour ses premiers pas de comédienne sur les planches, il est immense.
Ouais.
Le public, en fait, veut voir une star en vrai, pas sur un écran.
C'est vrai, c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais. Et j'imagine que c'est les mêmes qui vont la voir en concert pour la voir, parce qu'il y a une adoration, il y a machin. C'est assez beau, hein. C'est assez troublant à voir. Moi, j'avais jamais vu comme ça à ce point-là. Les gens, ils débordent d'amour, quoi. Mais je pense que le spectacle ne marcherait pas si ça n'était que pour voir Vanessa. Ils viennent, mais après, ils entendent quelque chose. Après, ils sont touchés. Après, ils ont ri.
Après, ils sont embarqués.
Et voilà, ils sont embarqués. Donc ça, c'est génial, quoi. Formidable.
Comment est l'ambiance avant la représentation dans les couloirs d'Édouard VII et comment est l'ambiance après, quand la troupe ne s'est pas encore dispersée pour aller dîner ou rentrer chez soi?
Alors,
dans un théâtre, c'est très vivant, où chacun est concentré dans sa loge. À quel moment vous vous retrouvez derrière le rideau?
Nous, on est extrêmement sérieux, en fait. Vanessa et nous, on aime beaucoup faire une italienne, ce qui s'appelle à 17h tous les jours.
Ah oui.
Donc on fait tout le texte avant.
Tout
de la pièce.
Le texte.
Ouais, donc ça nous prend une heure. Mais on aime bien ce moment-là, on est entre nous, dans ma loge en général, avec Félix Moati.
Alors, la pièce dure 1h30, mais comme l'italienne nous prend une heure, donc ça veut dire que vous la faites très rapidement pour avoir une espèce de mémotechnique.
Exactement, c'est quelque chose. Et puis c'est les premières représentations encore, enfin ça fait 3 semaines, mais quand même. Et on aime bien ce moment-là, c'est un moment à nous. Et puis ensuite, quand Vanessa va se faire un peu préparer pour la pièce, nous, avec Félix ou quoi, on s'allonge. Et on l'entend faire ses vocalises, donc on rigole un peu avec ça. Et alors
elle
après,
chante,
ah ouais, elle fait ses vocalises pour se chauffer la voix. Ouais, c'est magnifique, on adore. Donc on est allongé, on l'entend, on dit ouais, c'est bien.
Joli.
Moi, en général, je vais boire un coup quand même aussi avant et après. Et puis après le spectacle, c'est un peu le clandé dans ma loge où on fume, on boit des bières et machin tout.
C'est vrai.
Ouais, on rigole et on se raconte des conneries et voilà quoi.
Formidable.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez découvert de touchant sur Vanessa Paradis que vous n'imaginiez peut-être pas ?
Ah, j'ai pas découvert des trucs touchants, j'ai découvert elle en fait, qui elle est, que je ne connaissais pas du tout, et qui est une actrice juste sublime quoi. Et qui est d'une générosité, d'une classe folle, d'un talent fou. Et tu te dis, je comprends, quoi. C'est comme ça. Ça lui est tombé dessus. Et il n'y a pas à tortiller. Et c'est pour ça que les gens l'aiment. C'est pour ça qu'elle est là depuis. Si je dis 40 ans, elle ne va pas être contente. Mais on a qu'à dire 25 ans. Et du coup, elle est formidable, quoi. Mais moi, je trouve que ce qui me touche le plus chez elle, c'est sa générosité, je pense. Son écoute, son regard. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort, je trouve. Et pour jouer avec quelqu'un, je vais quand même citer Félix aussi.
Félix Moati.
Et Gabor Rassoff.
Voilà, qui joue
qui est extraordinaire
le
aussi.
Passant.
Ouais, avec ça, voilà, qui sont des gens. Et tous les quatre, je crois qu'on s'aime beaucoup. Alors ça aide à jouer, à traverser, à traverser le truc. Ouais.
Alors, Eric Elmosnino, vous qui êtes si heureux sur scène, il paraît qu'on ne vous y reprendra pas à faire de la mise en scène.
Oh là non.
Parce que vous avez essayé et vous dites « Bon, c'était une erreur qu'il fallait faire pour comprendre que c'était une erreur. » Donc on peut être un grand comédien et un mauvais metteur en scène.
Exactement.
Mais comment est-ce possible? Puisqu'il y a beaucoup de... L'instinct
à
infuse
mon avis,
tout ça aussi.
Non,
alors...
non, mais à mon avis, on peut être un grand écrivain et un mauvais peintre. Hein. C'est deux choses différentes pour moi. Non, non, c'est le regard, l'esthétique, tout ça. Je n'ai aucun... C'est une catastrophe. Je ne suis pas bon, je ne sais pas faire, c'est tout.
Vous ne savez pas faire?
Non, je ne sais pas faire. Non, non, non. Non, non, je ne sais pas faire. Donc, effectivement, je m'y suis risqué deux fois et j'ai dit, bon, c'est bon, là, ça va peut-être aller.
Bon, le métier d'acteur, C'est un va-et-vient entre de grandes aventures et la solitude. Alors, quelles seront les prochaines grandes aventures ? La solitude, j'ai l'impression qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Hein, parce que la pièce « Maman » au Théâtre Édouard VII, vous la jouez jusqu'à...
16 janvier.
Jusqu'au 16 janvier.
Ouais.
Et ensuite, directement...
Je commence le 23 janvier à la Scala, moi.
Non ! Une autre pièce de théâtre.
Oui, oui.
Donc, ça veut dire qu'en décembre, vous allez répéter dans la journée et le soir, vous serez au théâtre avec Vanessa.
Ouais, ouais. Même avant, déjà en novembre aussi. Ouais, ouais. Ouais. Bah oui, oui.
Donc, vous êtes un flemmard très actif.
Oui, c'est ça. Je vais être crevé. Mais je vais continuer de vivre à côté aussi. Hein.
Oui, parce que...
Non, non, non.
Attendez, vous, il paraît que vous détestez la campagne. Donc vous êtes un Parisien...
Parisien, j'aime bien la ville en tout cas, ouais, c'est vrai.
Un amoureux du bitume.
Ouais, ouais, du bitume et du bistrot.
Voilà, donc ça tombe bien pour quelqu'un qui joue autant au théâtre.
Ah bah, ça tombe très très bien. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'adore ça. Puis j'adore traîner dans les villes, dans les trucs, j'adore ça.
Où se trouvent votre Molière et votre César ?
J'ai récupéré mon Molière parce qu'il était chez ma maman et puis voilà, j'ai perdu ma maman donc j'ai récupéré le Molière et puis le César, ils sont...
Il ne sait plus ce qu'il en a fait.
Non, parce que...
Alors si vous savez plus ce que vous en avez fait, ce serait joli que la collection se renouvelle.
Bon bah écoutez Isabelle, très bien. Je veux bien, moi j'adore.
Bah, voilà.
Moi j'adore qu'on me donne des récompenses.
C'est comme à l'école.
J'ai pas de problème. Ah ouais. Oui, oui. Enfin, moi, c'était pas comme à l'école pour le coup, mais c'est franchement, ça fait plaisir.
Voilà, les choses vous arrivent un peu tard, cher Eric, mais quand elles vous arrivent en grand.
C'est ça.
Voilà. Bon, allez, Théâtre Édouard VII. Il faut aller voir cette pièce, signée Samuel Benchetrit, avec Vanessa Paradis, avec Félix Moati, avec, dans le rôle du passant,
Gabor Rassoff.
Et bien sûr, Eric El Mosnino, le seul, l'unique. Je vous dis à bientôt.
Au revoir.